Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Notre Bible, et je vous propose deux lectures, une très courte lecture dans le livre des Juges. Alors, voilà, chapitre 3, verset 31. Alors, nous lisons ensemble. Après lui, il y eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. Nous allons poursuivre et nous reviendrons d'ici quelques instants à notre livre des Juges. Mais je vous propose que nous fassions une deuxième lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 6. Voilà, nous allons faire l'association de ces deux textes. Et vous allez deviner quel est le rapport entre les deux. On va le découvrir ensemble. Actes chapitre 13, verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. » Et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse et nous aide. Hein. Vous avez peut-être déjà trouvé la solution. Alors on va voir ça ensemble. Ce n'est pas forcément évident, mais il y a une pensée qui, explique la deuxième lecture dans le livre des Actes. Et cette pensée, c'est celle-ci. Alors vous savez que dans la période, cette période ténébreuse, cette période troublée du livre des Juges, il y a eu pas mal de difficultés pour Israël, des difficultés qu'Israël s'est suscité par sa désaffection de foi, son abandon de Dieu. Se perdre, c'est vrai, en perdre la foi en courant vers la magie, l'occultisme, les idoles, etc., etc. Il y a eu naturellement, pour cause, un abandon de Dieu et par voie de conséquence, des catastrophes qui sont arrivées, des fléaux, des famines, enfin toutes sortes de choses. À chaque fois que le peuple revenait vers Dieu, prenait conscience de son égarement, Dieu pardonnait. Et il pardonnait, et à ce moment-là, il suscitait un homme que l'on appelle le juge. Il y en a eu plusieurs, il y a eu toute une succession pendant des très très longtemps, hein, ça durait pas mal de décennies, hein, très longtemps. Nous avons lu dans la Bible qu'il y en a eu des dizaines de juges, enfin quelques-uns en tous les cas. On en connaît certains, hein, tels que Jephté, tels que Samson, tels que Gédéon... Opniel, etc. J'en pense, et il y en avait des moins connus, comme celui dont nous avons trouvé le nom, Shamgar. Vous connaissez, hein ? On le connaît parce qu'on lit le texte. Hein ? On sait que c'était une époque troublée où les gens ne voulaient même plus passer par les routes, hein, c'est ce qu'il nous est dit un petit peu plus loin. Il nous est dit que du temps de Shamgar, hein, j'ai tourné une page, je suis au chapitre 5, mais peu importe. Il nous est dit que dans ce temps-là, les routes étaient abandonnées, ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés, parce que finalement, il n'y avait plus de force en Israël, il n'y avait plus d'autorité, il n'y avait plus rien du tout. Alors, dans ce temps-là, après une période d'accalmie, mais une période de retour à l'idolâtrie, à toutes sortes de choses qui étaient faites pour déplaire à Dieu, eh bien, après ce temps-là, il y a eu tout à nouveau eh bien, un effondrement du peuple élu. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, ils ont dû crier à Dieu, et Dieu leur a suscité un juge. Et ce juge, il nous en est donné très très peu d'histoire, mais il nous est dit qu'il s'appelait Shamgar, il était fils d'un homme qui s'appelait Anat, et ce qui est intéressant, c'est ce qui est écrit après de son histoire, c'est son histoire tout simplement. Il nous est dit qu'il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf, et lui aussi fut un libérateur d'Israël. C'est intéressant de nous arrêter là-dessus. Parce que nous voyons que, bon, c'est un homme qui passe, mais il est quand même dans l'histoire de la Bible, il est quand même dans l'histoire de Dieu, l'histoire biblique, et son haut fait, l'exploit qu'il a réussi, c'est qu'il a battu 600 hommes. C'est quand même une drôle d'affaire. Alors vous savez que dans ce temps-là, il y avait des incursions, des expéditions ennemies, hein, où quand le peuple de Dieu eh bien, avait fait des récoltes, enfin, fait des récoltes, quand les blés ou les céréales étaient encore dans le champ, eh bien, justement, les Philistins, les Moabites, les Ammonites, enfin, tous les gens qui étaient tout autour, hein, les Syriens aussi, tout ça, ils sont arrivés souvent, eh bien, venaient, et avant que la moisson soit faite, ils commençaient à ramasser tout. Et finalement, eh bien, ça mettait le peuple de Dieu dans une difficulté considérable, puisqu'il n'y avait plus rien à manger. Donc, ils venaient par la force. On appelle ça, hein, je crois, des razzias. Voilà. Hein? Et lui, il a voulu défendre, certainement, eh bien, ce qu'il avait pour sa famille. Et puis, un jour, il s'est senti certainement en pleine forme. Il fait plus qu'en pleine forme. Il avait certainement une autre force qui venait d'ailleurs. Alors, il s'est saisi d'un aiguillon à bœuf. Alors, vous savez, on n'en voit plus beaucoup. Hein? Ça, c'est un instrument qui a dû disparaître. J'ai une très vague idée de ce que ça peut être. C'est une perche, visiblement, avec, j'ai regardé un petit peu dans les commentaires, avec un petit morceau de métal au bout, certainement pour aiguillonner, pour piquer. Et quand les bêtes s'égarent ou les choses comme ça, bien voilà, ou les faire avancer. Enfin, voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on peut s'imaginer. Et lui, il l'a fait avec un aiguillon. Hein, un aiguillon pour stimuler, pour piquer les bœufs. Et c'est vrai que vous allez me dire, c'est quand même assez curieux, hein, parce que peut-être qu'il y avait d'autres moyens hein, de vaincre des ennemis, il faut le faire. Hein. Un homme avec une telle arme, qui n'en est pas une, parce que ça n'a jamais été une arme. Hein. C'est pas fait pour forcément pour tuer, mais on en connaît l'utilité. Donc, un homme, cet ustensile, et voilà que 600 hommes eh bien, sont mis par terre. Alors, il y a quand même une question à se poser, mais... Et la question, elle va nous ramener justement à notre deuxième texte. Ce misérable instrument, parce que ça fait quand même sourire hein, de voir un peu comment ça s'est passé. Donc, ce misérable ustensile, eh bien, peut-être, je dis bien peut-être, avec ce que nous allons naturellement dire tout à l'heure, peut-être une arme, une épée, une arme, donc, qui peut rendre victorieux contre les ennemis. Vous savez que les Philistins étaient les ennemis héréditaires hein, d'Israël. Et il y avait toujours cette inimitié entre les deux peuples, hein, et ça existe encore. Mais vous voulez peut-être que je donne un supplément d'information. Avec Dieu, on ne fait pas la guerre avec des chars, avec des cavaliers, avec des armées innombrables. Pour vaincre les ennemis, eh bien, il suffit d'avoir l'arme voulue, l'arme que Dieu nous propose. Et vous allez deviner, c'est très simple à deviner. Une arme redoutable, une arme qui va mettre en déroute n'importe quelle armée, qui va repousser l'ennemi, qui va donner la victoire, eh bien là, il s'agit tout simplement d'un aiguillon. Mais vous vous souvenez de David, avec quoi il a battu Goliath? Là, ce n'était pas non plus quelque chose, bon, même si ça servait dans les combats, tuer un géant, vaincre une armée qui était derrière le géant Goliath, mais ils ont été vaincus par la peur à ce moment-là, hein. La frayeur et la terreur, c'est qu'il y avait d'autres choses. Vous savez, si je vous parle de la foi, alors ça, c'est une arme. Ça, c'est quelque chose de redoutable. Parce qu'on peut le dire, et si nous voulons, avant de revenir dans notre livre des Actes, écoutez ce que nous dit, par exemple, le livre des Hébreux, je cite tout simplement, mais c'est quand même quelque chose. Et il nous est dit ceci, Hébreux, chapitre 4, par exemple, il nous est dit, car la parole de Dieu, et vous savez ce qui donne la foi, la parole de Dieu est vivante et elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, ou qu'un aiguillon, ou qu'une fronde, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs, et on ne peut pas y échapper, parce qu'il nous est dit un peu plus loin, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert devant celui auquel nous devons rendre compte. Voilà. Alors moi je trouve que si l'histoire de Shamgar nous est rapportée, c'est pour nous parler de la foi. Il ne nous a pas dit autre chose, mais nous parler de la foi. Et je peux dire que s'il y a quelque chose que nous allons découvrir maintenant dans notre texte, dans lequel nous allons retourner, dans le livre des Actes, au chapitre 13, alors on peut parler de l'aiguillon de la victoire, de la fronde de la victoire ou de l'épée de la victoire, que représenterait dans le texte que nous allons lire maintenant, eh bien tout simplement la foi dans l'autorité de la parole de Dieu. Et il y a un épisode qui illustre cela. On aurait pu prendre d'autres textes dans l'Évangile, de la vie de Jésus ou autre chose. Mais j'ai été conduit à ouvrir là, dans ce livre des Actes, pour montrer la foi dans l'autorité de la parole de Dieu, la valeur de cette parole, la puissance de cette parole qui est capable de renverser, eh bien, les Philistins, les magiciens, tous les détournements de ceux qui voudraient entendre la parole de Dieu, qui en sont empêchés, et de les mettre en déroute. Parce que vous savez, c'est toujours l'histoire des ennemis, l'histoire d'Israël, l'histoire contre la foi, l'histoire de ceux qui prêchent l'Évangile et qui en sont empêchés d'une manière ou d'une autre. C'est le cas de Paul, que là nous retrouvons sous son premier nom, c'est-à-dire Saul de Tarse. Donc la foi dans l'autorité de la parole de Dieu, il n'y en a qu'une. Si je vous disais que celui qui est notre modèle et notre sauveur et le Seigneur de notre vie, il a vaincu le monde, il a vaincu les hommes, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a vaincu dans tous les temps, c'était pas avec un aiguillon, c'était pas avec une fronde, c'était pas avec une épée, c'était avec une croix. Avec une croix. Instrument dérisoire pour prendre des victoires. Au contraire, c'était la victoire de la mort sur la vie. Mais de par la volonté de Dieu, ça a été la victoire de la vie sur la mort. Et c'est comme ça que Dieu renverse les choses. C'est comme cela que, eh bien, tous ceux qui, peut-être comme ces Philistins, comme ces 600 Philistins qui s'opposaient à Shamgar, eh bien, ont vu que, finalement, eh bien, avec Dieu, nous ferons des espoirs, comme dit David. Alors, on va revenir à cette explication du livre, donc, des Actes. On voit les apôtres qui se trouvent, eh bien, là, tout simplement, dans l'île de Chypre. Et ils évangélisent, ils vont de lieu en lieu, de village en village, de ville en ville, et ils prêchent le message de Jésus-Christ. Et vous savez, si nous voulons prêcher le message de Jésus-Christ, si ce ne sont pas les hommes qui nous font obstacle, en tous les cas, nous savons toujours que nous aurons toujours un ennemi devant nous, qu'il s'appelle Philistin ou autre, c'est l'adversaire. Et ça, je crois qu'il ne faut pas se déconcerter, parce que si nous baissons l'aiguillon, finalement, à la première confrontation, alors nous ne ferons jamais rien. Et à ce moment-là, alors qu'ils sont en train d'évangéliser cette île, alors ils ont trouvé, à un moment donné, ils ont trouvé un magicien. Et vous avez vu, il est précédé d'un certain magicien. Comme s'il y avait un petit peu d'ironie derrière l'explication c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. Un certain magicien, par surcroît, C'est un faux prophète juif. Il est là dans le cumul des fonctions, en quelque sorte, et de ses origines, qui sont des origines quand même nobles, du peuple de Dieu, d'un peuple averti, d'un peuple qui normalement connaît et sait la volonté de Dieu, puisqu'il est faux prophète juif. Il se nomme Bar-Jésus, et voilà que cet homme s'était immiscé, était parvenu au bout d'un certain temps à rentrer jusque dans la présence du proconsul romain, c'est-à-dire la haute autorité de cette île de Chypre, qui représente quand même un certain territoire, c'est quand même pas une petite île. Et il est arrivé à tout simplement rentrer dans son intimité, en quelque sorte, et on le découvre, cet homme, comme faisant autorité, ayant une influence sur ce magistrat, sur cet homme qui est élevé en raison de sa position de proconsul, un homme qui a été placé par l'empereur à Rome pour être le représentant, finalement, du César de l'époque. Et devant cette situation, notre malin, on pourrait dire, subtil Bar-Jésus, est arrivé à s'immiscer, à s'introduire dans la présence de cet homme important. Y trouvait-il certainement son avantage pour faire ce qu'il avait à faire? On sait qu'il est magicien et qu'il est faux. Il y a peut-être des vrais magiciens et des faux. Mais lui, il est faux juif, faux prophète juif, et c'est un vrai magicien. Dans tous les cas, tout ça, ça ne parle pas en sa faveur. Et on sait qu'il ne sert pas la cause de Dieu. Il ne sert pas la cause de la vérité, parce qu'il va être confronté lui aussi à la vérité. Et à ce moment-là, il nous est simplement rappelé, tout simplement, que cet homme, Sergius Paulus, était un homme intelligent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Certainement un homme intelligent. Sa fonction, sa position, un homme qui avait certainement à réfléchir, puisqu'il était administrateur d'une province, enfin d'une île importante de l'Empire. Mais il était intelligent parce que la suite nous le révèle. Et ça nous montre qu'il peut y avoir deux sortes d'intelligence. Il y a l'intelligence humaine. Je crois que c'est un don de Dieu. J'en suis persuadé. C'est-à-dire qu'il permet aux hommes la capacité qui leur donne la faculté de réfléchir. Et entre autres de choisir entre ce qui est bien, ce qui est mal. Et puis, voilà. Il y a des choses comme ça auxquelles nous sommes confrontés. Il est intelligent parce que il y avait probablement, ne le savait-il pas, mais il y avait au fond de son cœur une aspiration à quelque chose qu'il ne connaissait pas. Alors il s'était certainement laissé embobiner par ce magicien. Il lui avait peut-être parlé de ses exploits, le magicien, de sa puissance, de ses capacités, de ses pouvoirs. Mais quand même, il nous est dit que Sergius Paulus était intelligent, parce qu'il avait dû prendre des choses, il avait dû entendre des choses, il avait dû croire des choses. Mais ce qu'il avait probablement reçu de Bar-Jésus le laissait certainement sur sa faim. Il avait probablement des doutes encore sur la question de ce personnage. Mais il était intelligent parce que Dieu avait vu qu'il était intelligent. Il était intelligent parce que bientôt il va entendre quelque chose qui va le réjouir, qui va l'interpeller profondément, non seulement dans son intelligence d'homme, mais dans celle qu'il y a au fond du cœur des hommes. Une intelligence morale, et je dirais plus une intelligence spirituelle. Parce que pour comprendre les choses spirituelles, il faut être intelligent, mais intelligent de par Dieu, pas autrement. Et on a la suite. Il nous est dit que ce proconsul, quand il a entendu qu'il y avait des hommes qui venaient prêcher le royaume de Dieu, entre autres Barnabas et Saul, qui d'ici quelques lignes va changer de nom. Enfin, il avait quand même changé de nom avant, mais je veux dire qu'on va l'appeler Paul, le grand apôtre Paul. Et quand ce proconsul, qui est bien renseigné, puisqu'il a certainement sa police un peu partout, on l'entend dire que des hommes sont en train de parcourir là un petit peu tout le territoire de l'île, et qu'ils racontent, qu'ils parlent, certainement de Jésus, du Christ, d'un homme qui est mort pour le péché de l'humanité. Et puis tout cela s'accompagne, parce qu'il y a quand même quelque chose qui doit être interpellant quand il y a des signes, des miracles et des prodiges. Je vous dis, pouvait annoncer les deux missionnaires, je vous dis que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je vous dis qu'il est venu mourir pour les hommes. Il a fait l'expiation des péchés de tous. Il ne vous propose pas une religion, il vous offre un royaume. Il vous offre une transformation de vie. Il vous invite à vous repentir. Et je vous dis, je parle à la place de Paul, mais je vous dis que si vous croyez en lui, eh bien vous serez sauvés. Et je vais vous donner une preuve de ma foi dans ce que je dis en vous annonçant Jésus-Christ. Alors, s'il y a des malades qui viennent, s'il y a des gens qui sont tourmentés, qu'ils s'approchent, nous allons prier pour eux. Et après avoir entendu justement ce que Paul et Barnabas prêchaient, eh bien, ils mettaient les choses en pratique. Et les gens venaient. Alors, un premier peut-être est venu timidement. Il était malade, il a été guéri. Et puis un deuxième, un troisième. Et il suffit que ça parte dans ce sens. Et vous avez toute une population qui est touchée. Et je suppose que Sergius Paulus avait entendu parler de cette manifestation de puissance. De ces prédicateurs qui prêchaient, probablement pour un Romain, un Dieu inconnu, mais où il y avait vraiment quelque chose qui marquait le fait. Je vous dis que Jésus-Christ est mort pour vous, mais il est ressuscité, il est vivant. Et si vous croyez en lui, eh bien, il va vous guérir, il va vous sauver, il va vous pardonner, il va vous délivrer, et ceci et cela. Et les gens en ont fait l'expérience. Donc, c'est venu aux oreilles, probablement, eh bien, du proconsul. Mais il y a un mais. Le mais, eh bien, est expliqué de cette manière. Il a fait appeler, donc, le proconsul, et il a manifesté le désir d'entendre la parole de Dieu. C'est ce qui le rend intelligent. Voilà. C'est dit, moi, je quand même, s'il se passe sur mon territoire, dont je suis le gouverneur, s'il se passe des choses pareilles, alors moi, je voudrais quand même, il en avait le pouvoir, hein, de les amener devant lui. Et il dit, certainement, moi, je vais les entendre. Je veux voir si tout cela, eh bien, ce sont des histoires ou quoi. Alors, il a manifesté donc ce désir d'entendre la parole de Dieu. En entendant, quand ces deux missionnaires ont commencé à parler, il pouvait peut-être à ce même temps faire des comparaisons, se souvenir de ce qu'il avait entendu précédemment par ce fameux Élymas. Et voilà que ce magicien faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Je ne sais pas comment les choses se sont faites, alors que probablement, eh bien, Paul et Barnabas étaient en train de parler, je ne sais pas si, de quelle manière, est-ce qu'il faisait du bruit, est-ce qu'il parlait, est-ce que lui-même déjà manifestait quelques signes d'intimidation par des actes magiques, je ne sais pas, hein, ça pouvait faire peur. Vous savez que des hommes comme lui, il y en a eu d'autres dans la Bible, hein. Vous connaissez un fameux Alexandre que Paul a rencontré et qui dira, mais cet homme s'est opposé fortement à nos paroles, hein. Homme méchant. Homme ennemi du bien, homme ennemi de la justice, ennemi de la vérité, ennemi du salut, parce que c'est le cas. Et cette opposition, il l'a manifestée, donc ça ne nous est pas dit. Mais le but, c'était de détourner de la foi le proconsul. Je suppose que Sergius Paulus commençait à souffrir, à s'ouvrir. Il manifestait un certain intérêt à ce qui était dit. Et peut-être lui-même, personnellement, avait des besoins, lui ou son entourage. Et ça n'a pas échappé au magicien en disant, mais il ne faut pas qu'il m'échappe. Hein. Moi, il était sous ma domination, sous mon autorité. C'est quand même une drôle de chose de dire des semblablement, parce que quand on est proconsul, on est au-dessus. Mais là, il avait été dominé, il a été subjugué par les histoires et les enchantements de ce magicien. Et quand Bar-Jésus ou Élymas a vu ça, il s'est dit, il ne faut absolument pas qu'il aille plus loin. Hein. Il faut que je trouve un moyen de neutraliser, d'arrêter, de stopper ce processus pour que véritablement, eh bien, cet homme hein, de valeur et cet homme influent qui est le gouverneur, eh bien, ne m'échappe pas. C'était son intérêt, probablement. Alors, à ce moment-là, Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, et il a dit des choses. Voyons que Paul a certainement ressenti ce qu'il avait ressenti quand il était à Éphèse. Quand il se promenait dans la ville d'Éphèse, excusez-moi, je retire, pas Éphèse, mais Athènes. Oui, je reviens. Hein. Athènes, quand il est rentré dans cette ville qui était pleine d'idoles, pleine de magie et de superstitions, il nous a dit qu'il a été interpellé, irrité dans son esprit. C'est certainement à peu près la même chose. Et là, il a été rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit d'une manière particulière pour dire quelque chose qui va s'accomplir. Et ça, c'est une belle expérience que nous pouvons faire. Il y a la vie spirituelle, la vie de la foi courante, mais quelquefois, et je pense que vous l'avez ressenti, les prédicateurs le savent aussi, par expérience, c'est quelquefois, il y a un moment donné, on est saisi par le Saint-Esprit. On est porté à faire quelque chose ou à dire quelque chose. Quand il y a le phénomène de la prophétie. Ben c'est ça, hein. Et on est, parce qu'il y a quelque chose à dire, hein, pour l'édification, pour la consolation, et voilà. Vous connaissez le processus. Mais c'est quelque chose qui existe, qui existait et qui existe encore aujourd'hui. Et lui, il l'a ressenti profondément. Il était saisi à un moment donné par l'Esprit-Saint, on pourrait le traduire de cette manière, et il a regardé cet homme, cet imposteur, ce magicien, cet enchanteur. Il l'a regardé et il a prononcé les paroles suivantes. « Homme, plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. » Ce n'était pas des compliments. Hein. Et je crois que ce sont des choses qui ne peuvent être dites et faites, parce que, humainement parlant, ce sont des insultes et un outrage. Mais là, c'était la vérité. C'était la vérité, c'était la première démonstration qu'Élimas pouvait toucher du doigt, que l'homme qui lui parlait, c'est-à-dire Paul, rempli du Saint-Esprit, eh bien, ne parlait pas de lui-même, mais il parlait par une inspiration qui était au-dessus, supérieure, une autorité qui était supérieure à tout ce qu'il pouvait connaître, ce magicien, au-dessus. Vous savez, c'est l'histoire de Moïse avec le bâton des magiciens qui est jeté par terre, hein, qui se transforme en serpent, et puis le bâton de Moïse qui lui aussi va être jeté par terre, il va y avoir un serpent, mais qui va manger tous les autres. Il y a une dimension supérieure. Et je crois que nous sommes toujours dans un monde confronté avec l'occultisme, la magie, mais que nous soyons chrétiens, ou que nous nous approchions du Seigneur, nous n'avons absolument rien à craindre. Parce que Jésus a fait la promesse. Hein. « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Ça, c'est un saisissement dans la foi. Lorsque nous sommes parfois, eh bien, bousculés, nous sommes confondus, ça, c'est une vérité. Et Paul va bien marquer le fait, si moi, je suis rempli du Saint-Esprit, toi, tu es plein. Parce que c'est les mots, hein, qui sont devant nous. Toi, tu es plein, mais d'autre chose. Parce que l'Esprit, c'est la sainteté. L'Esprit, c'est la vérité. L'Esprit, c'est la grâce. C'est la liberté aussi. Alors, tu es plein de toute espèce de ruse et de fraude. Ah, la ruse. Ça nous rappelle le chapitre 3 du livre de la Genèse. La fraude, ça nous rappelle tout ce que Dieu condamne de toutes ces déviations, de toutes ces turpitudes qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans la nature humaine. Frauder. Dévier et tout simplement la voie. Et il lui dira, tu es un fils du diable. Alors ça, c'était vraiment mérité, c'était bien authentifié, c'était bien dit, parce que c'était la vérité. Et jusqu'ici, peut-être qu'Élimas ne s'était jamais entendu dire qu'il était le fils du diable. Ça a dû certainement le surprendre. Il croyait qu'il était le fils de personne, se pensant qu'il était lui tout-puissant, avec ses sortilèges, avec tout ce qu'il pouvait eh bien, faire la démonstration d'une prétendue puissance, mais qui ne venait pas de Dieu. Et il devait le savoir, parce que quand même, je vous l'ai dit, il était juif. Et ce qu'il devait savoir, c'est que c'était interdit. C'était quelque chose qui était condamné formellement par Dieu comme une abomination. Donc, tout ça, c'est un rappel pour lui. Et Paul continuera, lui dit, mais par-delà tout ça, ennemi de toute justice. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 600 hommes des Philistins qui sont tombés sous l'aiguillon de Shamgar. Alors, je ne sais pas s'il y en avait 600, mais en tous les cas, la quantité, le nombre, hein, c'est cela hein, qu'il faut retenir, c'est que lui, il n'était pas tout seul non plus. Hein. Ouais. Il était investi de toutes sortes de choses, parce que quand on regarde les mots, il nous est parlé de magie, il nous est parlé de fausseté, il nous est parlé d'opposition, il nous est parlé de détournement, il nous est parlé également de ruse, de fraude, il nous est parlé du diable, fils du diable, ennemi de toute justice, de perversion un peu plus loin. Alors, il n'y en a pas 600, hein. Mais j'ai voulu faire le rapport parce que ça m'a frappé quand j'ai lu les deux textes, je les ai mis en confrontation. Je me suis dit, mais celui-là, il y a quelque chose. Vous savez que les Philistins ont toujours été présentés, je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, comme les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu, les ennemis de la foi, en raison de tout leur paganisme, on pourrait dire cela. Et par Jésus, lui, en tous les cas, il avait quelque chose. Hein. Et Paul d'ajouter ceci, « Ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» En l'occurrence, en faisant opposition, parce que lui, il avait senti que à un moment donné, le proconcile, il allait aussi se convertir. Il allait passer dans le bon camp. Et Paul va marquer les choses en disant, mais quand est-ce que tu vas cesser de pervertir? Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de justice et de droiture. Le diable se caractérise par la perversion. Et la perversion, c'est un monde. Un monde dont on a du mal à mesurer la profondeur, à évaluer les limites, les contours. La perversion n'a pas de limite. Elle en a certainement une, mais elle est très difficile à définir. La perversion, elle va de la grossièreté, de la vulgarité, au raffinement, à toutes sortes de subtilités. Et ça, ça fait partie de toute la panoplie de cet être pensant et intelligent qu'est l'adversaire, qu'est le diable. Et il investit des hommes. Il leur donne des pouvoirs. Il leur donne des capacités. Il leur donne un esprit de persuasion. Il leur donne un esprit de séduction. C'est ce qu'il a fait. Et la suite, c'est là où nous voyons la pierre dans la fronte de David toucher le front de Goliath. C'est là où nous voyons l'aiguillon à bœuf de Sangar toucher finalement cette armée ennemie. C'est là où nous voyons la croix de Jésus qui va sauver le monde, sous une apparente défaite. Qu'est-ce que l'on peut faire avec une croix? Qu'est-ce que l'on peut faire avec une fronde? Qu'est-ce que l'on peut faire avec un aiguillon? Eh bien, le résultat, il est là. Paul, toujours rempli du Saint-Esprit, dira maintenant, « Voici la main de Dieu. » Et les mains sont toujours représentées pour tenir l'aiguillon, pour bander ou tout simplement se servir à faire tournoyer la fronde. Puis les mains de Jésus sur la croix. Ça semble paralysant, hein. Mais c'est pas ce qui a empêché les choses de se faire. Maintenant, la main du Seigneur, elle est sur toi. Et c'est pas une prononciation de bénédiction, hein. Et tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Voilà, le jugement. Et vous remarquerez avec moi, je trouve qu'il y a encore de la miséricorde dans la sentence. Oui, il y a encore de la miséricorde dans la sentence, parce que quand on dit, mais quand il entend « tu es perverti », peut-être que nous les hommes, on lui aurait dit « bien écoute, maintenant c'est terminé, hein. Dieu te touche et c'est fini ». Mais Dieu l'a touché, mais je crois que tu seras aveugle pour un temps. Est-ce que quelque part, c'était quand même un cœur de juif qu'il y avait derrière? Est-ce que Dieu ne lui tendait pas la main en lui donnant encore un temps pour se repentir? Un temps pour se souvenir? Un temps pour se remémorer ce qu'il savait? Moi, j'ai toujours été étonné que dans des situations qui me semblent tellement graves, oui, je dis que l'occultisme, c'est grave, la magie, cette invocation de ce monde spirituel, de cet autre monde des ténèbres, cette compromission de cette alliance avec les forces mauvaises, je me dis que Dieu est miséricordieux. Pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Et c'est ce qui s'est passé, parce que c'est très rapide, l'intervention, aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Oh, si nous voulons peut-être dire quelques mots là-dessus, ce n'était que le résultat de ce qu'il était auparavant. Les ténèbres et l'obscurité étaient déjà sur lui. C'était un homme de ténèbres. Mais là, ça va devenir vraiment une réalité physique. Ça va devenir une réalité qui va être le propre de sa vie pendant quelque temps. Et à ce moment-là, cet homme qui avait l'habitude, vous remarquez, de diriger les autres, de manipuler les autres, de s'introduire même auprès de la plus haute autorité de l'île, donc le procurateur, le proconsul, de le diriger lui aussi, eh bien, vous savez ce qui va se passer? C'est lui qui va demander à être dirigé. Il nous est dit que les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Ah oui. Aidez-moi, je suis aveugle. Ça doit faire un drôle d'effet quand même. Ça doit être quelque chose de paniquant, quelque chose d'assez redoutable. Mais vous savez, est-ce que ce n'était pas aussi l'histoire de Paul sur le chemin de Damas? On peut faire des recoupements dans la parole. Oh, je pense que ce n'était pas prémédité chez Paul, parce qu'il nous a dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, quand Dieu nous donne une charge, ou il nous donne un ordre, ou un devoir, ou une œuvre à accomplir, c'est pas nous qui préméditons, c'est le Seigneur qui nous dit et on le fait. Rien n'est préparé à l'avance par l'homme, parce que si c'est préparé à l'avance par l'homme, eh bien, ça ne vaut rien. Ça ne vient plus de Dieu à ce moment-là, ça vient de l'homme. Et il me semble à ce moment-là que les choses sont venues comme ça. Et même si c'était l'histoire de Paul avant, ce n'était pas en disant « moi je suis passé par là, tu vas y passer aussi ». Certainement pas. Hein. Loin de moi la pensée de croire que Paul a eu cette pensée qui lui a traversé la tête. Hein. Non, on voit à ce moment-là, il va chercher, il va demander. Mais quel retour, et je dirais qu'il y a presque de l'ironie dans le jugement de Dieu. Chez ce Bar-Jésus, ou Élimas, qui veut diriger les autres, et c'est lui qui est mené maintenant. Pour montrer que de toute façon, il y a une rupture. Celui qui l'inspirait, maintenant il n'est plus tout seul pour réfléchir. Et il a certainement entendu la parole de Dieu, quand il était près du proconsul, en faisant opposition à Paul et à Barnabas, il a dû entendre certainement la parole, la même parole également. Alors à ce moment-là, j'aimerais bien voir un peu ce qui s'est passé pour le proconsul, parce qu'il a été spectateur, il n'y avait peut-être pas de miracle le jour où il a prêché, mais il y en a eu un quand même, il n'y avait peut-être pas un miracle comme il y avait parmi les foules à l'extérieur, mais là il y en a eu quand même. Alors le proconsul, voyant, et c'est à souligner aussi, voyant ce qui était arrivé, il a entendu la parole de Dieu, et il y a eu un signe, il y a eu un miracle, il y a eu un fait de Dieu extraordinaire, parce que cela a mené, en fonction de ce qui est arrivé, devant lui, en voyant son ancien conseiller ou tout ce que vous voudrez, dans cette situation, il nous a dit un mot tout simple. Parce que c'était l'aboutissement, c'était la mission de Paul, c'était la volonté de Dieu, c'était tout simplement les choses qui étaient prévues dans le ciel. Il nous a dit simplement qu'il crut. Et le but est atteint. Puisque l'autre faisait opposition tout simplement à la parole de Dieu. Faire opposition à la parole de Dieu, c'est empêcher les gens d'accéder à la capacité de croire pour être sauvé, pour être guéri, pour être délivré. Et là, un mot tout simple arrive, il est marqué, on pourrait dire au coin, par le doigt de Dieu, cet homme a cru. Et il a cru en ajoutant ceci, étant frappé de la doctrine, tout simplement du Seigneur. Il a dû dire à ce moment-là, ça c'est la vérité. Et s'il y a réfléchi, peut-être quelque temps après, il nous a dit, mais qu'est-ce qu'il m'a raconté, cet Élimas? Qu'est-ce qu'il m'a mis dans les oreilles? Parce qu'il y a quand même, un abîme entre le message de l'Évangile, de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, du salut en Dieu, avec toutes les choses de pseudo-spirituel. Vous comprenez bien? D'une fausse spiritualité. Parce que si vous prenez le mot spiritualité, ça peut aller dans les deux sens. Vous avez une spiritualité divine, qui est le salut de Dieu, qui est la révélation de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ, qui s'appuie sur la parole, qui donne la foi pour nous rendre, pour nous permettre d'être accessible finalement à Dieu. Et puis il y a cette autre spiritualité, et toute enjolivée par toutes sortes de choses. Il y a aussi des signes de ce côté-là. Il peut y avoir aussi des miracles. C'est du tape à l'œil, c'est de l'enchantement, ce sont des sortilèges, c'est toutes sortes de choses. Autant la parole de Dieu réjouit le cœur et elle procure la foi et la paix, autant l'autre côté, ça crée la crainte et la peur et l'incrédulité. Alors il a cru, il a été frappé par la doctrine du Seigneur. Je termine sur notre affaire d'aiguillon. Ouais. Shangar a vaincu une troupe d'hommes avec un aiguillon à bœuf. Et vous l'avez constaté avec moi, dans notre petite lecture, je n'ai même perdu la page, mais je vais certainement la retrouver, Juge 3, il nous est simplement dit, cette parole, et je terminerai sur elle, voilà, c'est bien, verset 31, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis bien dans le bon livre. 3, m'excuserez, hein, je suis un petit peu là. Je suis égaré. Voilà. Je ne regardais pas la bonne page. Il est dit simplement « Et lui aussi ». J'aime bien ce « lui aussi ». Parce que voyez-vous, ce n'est pas l'histoire exceptionnelle d'un homme. C'est l'histoire de toutes sortes d'hommes qui ont cru à la parole de Dieu, qui ont cru à la victoire de Dieu, où Dieu leur a mis en main pour l'un une chose ou autre chose, mais qui ont cru, qui ont saisi par la foi, et ils ont remporté les victoires parce qu'il nous a dit « lui aussi fut un libérateur d'Israël ». Ouais. Eh bien moi je dis que Paul et Barnabas ont été les libérateurs d'un homme, alors d'un homme qui s'appelait Sergius Paulus. Comme David, on en a parlé, a été libérateur aussi de son peuple, comme d'autres également ont été des libérateurs d'Israël. Mais le plus grand de tous les libérateurs, c'est celui qui est venu parachever toute cette œuvre. Lui, il est au-dessus de tous. Mais il nous a livré son arsenal, ses trésors. Il nous a livré le principe qui ouvre toutes les portes de délivrance. C'est le principe de la foi dans l'autorité de la parole de Dieu. Et ça, je crois que c'est irremplaçable. Alors nous avons du travail à faire. Nous avons encore des témoignages à rendre. Nous avons encore des prédications à donner. Nous avons à être là où Dieu nous place d'une manière ou d'une autre, et toutes les occasions sont bonnes pour que nous puissions, eh bien, tout simplement être ces témoins, être des Shamgars, en quelque sorte, ou d'être des Paul et des Barnabas. Parce que quand Dieu dit une chose, quand Dieu veut une chose, quand Dieu entreprend une œuvre de salut, eh bien, vous pouvez avoir 600 Philistins, vous pouvez en avoir 6000, vous pouvez en avoir 6 millions autour de vous. Il n'y aura qu'une chose qui va fonctionner, c'est la foi dans l'autorité de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne sa grâce.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.